Salut les marques, salut les smarts, salut peuple le catch-up, bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch, qui le suinte, qui le dégouline, mais qui le transpire, mais c'est sans arrêt ici quoi, de toute façon, ça dégouline sur les murs, c'est vraiment, c'est crade d'ailleurs, hein. Il va falloir faire quelque chose hein, pour ça. Hein. Chaque semaine nous analysons, nous décortiquons, nous encensons et parfois nous démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui on se retrouve pour le Monday Night Raw 1436 du 30 novembre 2020. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et pour m'accompagner, pour analyser, pour décortiquer ce Monday Night Raw du 30 novembre 2020, je l'ai déjà dit mais je le répète, rien de tel que mon tag team partner de Monday Night Raw depuis pas mal de temps maintenant, mon bon papy, j'ai envie de te dire, where are you?
Bonjour les enfants, bonjour tonton, I'm here in the maison de retraite, hein, as d'habitude.
Hein. As usual.
As usual, bah, bien sûr. Ah là, t'as raison, ça suinte de partout le catch là. Oui, c'est, j'ai des gouttes qui tombent du plafond.
Bah ouais, tu vois, ça me glissait tellement des doigts là, tu vois, mes notes et tout, quoi, que j'arrivais même plus à en faire mon intro, quoi, tellement ça transpire le catch à catch-up, quoi. Donc le peuple de catch-up, bah écoute, va être ravi de nous retrouver pour vous donc vous commenter, vous revivre ce Monday Night Raw. Un Monday Night Raw qui commence le booking de TLC, hein, on est d'accord, mon papy, hein, on est lancé sur TLC dorénavant, hein, c'est le prochain pay-per-view de la WWE.
Dans deux semaines, je crois, déjà.
Ouais, c'est vrai que c'est déjà dans deux semaines, ouais. Ouais, c'est vrai que ça avance, mine de rien. Quoi. Et on va démarrer le show, bah, rien de tel qu'avec un Moment of Bliss. Donc, vous connaissez un peu comment ça se passe avec Alexa. Elle a rejoint le Fiend. Voilà, c'est un couple un peu démoniaque. Elle s'est repackagée hein, avec un look assez girly, jeune. Mais elle est voilà, avec un maquillage un peu hardcore et tout, quoi. Donc, on a une Alexa Bliss très sombre, très dark. Et elle est sur le ring et elle accueille bah, rien de tel que la vipère, puisqu'elle accueille Randy Orton, qui est donc un peu dans le viseur, hein, on va dire, un papy hein, du Fiend, hein, dorénavant. Hein. Et voilà, et donc Alexa, elle nous remontre des vidéos, l'intervention du Fiend lors du match de qualification de lundi dernier. Voilà, et elle lui demande s'il sait pourquoi il a fait ça. Donc Orton, il répond qu'il connaît Bryan depuis très longtemps. On se rappelle de la feud, hein, la fameuse feud entre les deux, effectivement, qui avait terminé sur un match assez bizarroïde, on va dire, à WrestleMania. Et voilà, qu'il le considère comme son égal. Et il révèle à Alexa qu'il entend les mêmes voix dans leur tête, quoi, ses voix, quoi. Donc du coup, il dit qu'il a trouvé la faiblesse de Wyatt, qu'il y a mis le feu. Voilà, remember la maison de Sister Abigail qui crame. Et voilà, et maintenant il va lui suffire juste de faire à peu près la même chose avec le film, quoi. Et qu'il semble avoir trouvé ce qu'il faut avec la personne tout simplement d'Alexa Bliss. Donc la Little Miss, bah, elle est pas bête. Hein. Donc elle lui demande si c'est ses voix qui lui disent ça ou s'il raconte du baratin, quoi, s'il ment. Au moment où elle lui demande ça, les lumières commencent à s'éteindre petit à petit dans l'aréna. Et à ce moment-là, Alexa va prononcer la phrase. Who is manipulating? Who? Qui manipule qui? Les lumières rouges s'allument, le Fiend est présent sur le ring, mais le Orton, il a un plan, le mec. Le mec, il a un plan. Il a pris dans ses bras la Alexa Bliss, ce qui fait que le Fiend, il est un peu scotché, quoi. Il sait pas trop quoi faire, il s'avance, il tend les bras lui aussi. Orton, du coup, lui balance la Alexa Bliss dans les bras. Il quitte le ring, le Orton, vite fait, et voilà, et il se retrouve. Et puis évidemment, on a le rire sardonique et satanique habituel du Fiend pour terminer le segment. Alors, mon papy, un Moment of Bliss assez dense, quoi. Et voilà, donc ce qu'on se disait la semaine dernière, puisqu'on était déjà ensemble la semaine dernière, allez écouter nos reviews, les amis, il y a SmackDown qui sont en ligne. On en parlait déjà ensemble quand on parlait voilà, de la mise en place de la rivalité entre le Fiend et Orton. Donc, est-ce que tu penses que ce Moment of Bliss, là, ça nous emmène sur de bons rails?
Oui, alors, partagez sur cette introduction.
D'accord.
Parce que l'histoire qu'il raconte me plaît bien. Et le jeu aussi d'Alexa Bliss qui joue à toi, à moi, avec Orton en disant qu'est-ce qui est en train d'essayer d'embobiner l'autre. Donc voilà, c'est la feute des tarés, en fait. Vous essayez tout de s'embobiner les uns les autres. Par contre, j'étais un petit peu pas super convaincu de la manière dont ça a été joué, je trouve. C'était un petit poil hésitant, tentant sur les mots. Ouais, j'ai pas trouvé d'alchimie énorme en fait, entre Orton et Bliss. Alors que pourtant, en fait, le texte en lui-même avait de l'alchimie, mais pas la présence des deux, en fait, tu vois. Et puis même le moment où Orton attrape Bliss dans ses bras, j'ai pas compris, en fait. Parce qu'il la portait vraiment, bah, tu sais, comme un mec qui porte une mariée, là, qui rentre dans la chambre nuptiale. Et pas comme s'il la prenait en otage, tu vois. Sur le coup, je sais pas pourquoi elle a dans ses bras, c'est sa copine, il faut un câlin, j'en sais rien.
Ah, c'est
Et
marrant,
non,
ça m'a, moi, ça
il.
m'a pas posé de problème, ça.
Ouais, mais je sais pas, j'ai, en fait, oui, il la prenait en otage, en fait. Mais sur le coup, ouais, je sais pas, je comprenais pas trop, en fait. Voilà, j'avais du mal à. En fait, il me fallait quelques secondes à chaque fois pour comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, je trouvais pas ça super fluide. Mais sinon, bah, par contre, l'histoire, bien sûr, qu'elle me plaît, je suis content qu'ils enchaînent plusieurs semaines de suite et j'espère qu'ils vont continuer en cette voie-là parce que là, les trois, ils vont pouvoir s'amuser comme des foufous à jouer sur le surnaturel en fait de la situation quoi. Donc, why not?
Ouais, donc c'est notre opener d'Euro et ça se lance doucement. Mais derrière, on va enchaîner avec la première partie un peu catch de ce Monday Night Raw, puisqu'on va avoir un droit à un match, à un Symphony of Destruction match entre Jeff Hardy et Elias. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, qui nous écoutent pour la première fois, un Symphony of Destruction match, c'est un match avec plein d'instruments de musique dispersés un peu partout, ringside et sur le Titantron, sur la rampe, etc. Les Jeff Hardy et Elias se sont multipliés les coups de guitare. Ils en sont environ à 76 coups de guitare depuis ces dernières semaines. Une feud qui avait commencé à SmackDown qui continue à Raw. Bref, ils n'en finissent plus d'éclater des guitares sur le dos. Bon, pourquoi pas? Donc du coup, bah alors apparemment on a décidé de régler le truc. Enfin, on verra si c'est quelque chose de souhaitable. Donc voilà, on règle ça de cette manière-là. Alors dans ce Symphony of Destruction match, en fait, c'est aussi comme c'est une sorte de false count anywhere en réalité. Donc les mecs bah, se lancent là-dessus, hein, c'est parti, hein, ça s'envoie dans tous les sens. Ça se pète des violons, ça pète des guitares, ça pète des batteries, ça pète des violoncelles. Tu me dis, hein, papy, si j'en oublie, hein, ça pète des trompettes, ça pète des amplis. Enfin bref, ça pète tout le
Il y a
set
des
d'un
tambours
concert.
avant.
Voilà, il y en a pour des centaines de milliers d'euros de destruction. De matériel musical de haute qualité, voyez-vous, la production à la WWE a les moyens hein, quand même hein, de détruire des choses comme ça, un matériel pareil. Bon, finalement, ça se passe de temps en temps un peu dans le ring, de temps en temps on s'envoie un peu dans le ring pour porter quelques moves connus des deux. Ça botche un petit peu aussi au passage, hein, et l'Ayas, il faut qu'il travaille un peu plus, l'ami. Hein. Du coup, Jeff Hardy va profiter à un moment auquel l'Ayas s'électrocute avec un ampli qui est branché. Il va l'attaquer avec plusieurs instruments. Il va le coucher sur une table située coin à peu près hors du ring. Et il va remporter le match en effectuant quoi? Ben, en effectuant une stunner, donc pas un roll-up, mon papy, hein, pas comme la semaine dernière. Enfin, on a un
Ouf.
finish avec un finish, quoi. Avec un finisher. Et Swanton Bomb de la part de Jeff Hardy depuis le coin de la table, tout en se fracassant la tête d'ailleurs au passage sur les escaliers en fer qu'il avait oublié d'enlever, ce qu'on a. Et victoire de Jeff Hardy sur Elias, mon papy. Ton avis sur cette symphonie de la destruction.
Et oui, et t'as oublié, alors c'est moi qui l'ai raté, mais il y a aussi Artouf qui était caché dans un
Ah
piano.
oui, ah oui, ah oui, excusez-moi, oui, en plus je l'avais noté, en plus le pire, j'avais marqué Ertrousse entouré. Je ne suis pas pardonnable. Et du coup, ça a donné d'ailleurs un truc marrant dans ce combat, puisque effectivement, Ertrousse était planqué dans le piano. Évidemment, il se cachait de ses éventuels poursuivants pour le titre 24-7. Il est découvert par les deux belligérants, Jeff Hardy et Elias. Il sort, il s'en va. À ce moment-là, il y a Eric, les Lucha House Party, et puis je ne sais plus quel autre, Drugulak, qui passe. Et là, pour une fois, il se passe un truc, par contre, assez notable pour le 24-7. C'est que pour une fois, les deux protagonistes du combat eh ben, vont s'en mêler et vont empêcher Drugulak et les Lucha House Party de passer, puisque Jeff Hardy va mettre un surpassement à Drugulak. Qui va s'écraser comme une merde. Jeff et Elias, lui, va s'occuper des Lucha House Party, puisque l'un après l'autre, il va les démolir à coups de clothesline et va même les empiler les uns sur les autres. Et du coup, bah, on suppose après que Ertrus réussit à s'échapper, plus ou moins quand même, mine de rien, grâce à l'intervention de Jeff Hardy et Elias.
Ouais, et d'ailleurs, sincèrement, c'est peut-être le truc qui va le plus intéresser dans le match. Parce que les Jeff Hardy et Elias, on en a eu une pelletée. Le Symphony of Destruction avec Elias, on l'a déjà eu aussi. C'était avec Strowman.
Strowman.
Ouais. Et donc, du coup, la redite de redite, en plus, moi, je suis persuadé que c'est fini entre deux. Puis, il va aller voir revenir l'un contre l'autre. Je vois, non merde, alors. En plus, enfin, voilà, là, j'ai. J'étais pas emballé des masses. Bon, le match en lui-même est pas mauvais, hein. C'est juste que bah, j'étais pas du tout hypé. Et donc, du coup, les voir à deux fracasser la division 24-7, je me suis pris un moment à espérer que, tiens, est-ce qu'ils vont pas se trouver finalement des similitudes, ou je sais pas, ou merde, c'était trouver une sortie originale à ce segment-là. Et non, finalement, ils ont fini le match à l'ancienne, et puis bah, je ne sais que dire. J'espère que ça va pas continuer, ou alors que si ça continue, ils vont trouver d'autres idées plutôt que de les faire l'un contre l'autre, parce que bah, Jeff Hardy et Elias, bah, où est l'avenir pour eux? Il m'a l'air bien bouché, quoi, s'ils continuent comme ça.
Ouais, alors j'espère que moi je vous ai fait un play-by-play enthousiaste, parce que en réalité, votre tonton Chris, il n'est pas du tout enthousiaste, quoi. Alors bon, premièrement, déjà, je n'aime pas du tout cette stipulation. Moi, même si je sais que c'est du fake, que les instruments, c'est des instruments gimmickés, etc. Très franchement, ça m'a jamais branché les matchs où on détruit des instruments de musique. Voilà, voilà des objets qu'a créé l'être humain pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et j'ai jamais été un grand fan. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'étais pas un grand fan de Jeff Hardy. De Jeff Jarrett. Voilà, qui se trimbalait avec sa guitare et qui, effectivement, lui aussi était assez habitué à ce genre de match. Donc moi, c'est une stipulation qui vraiment ne m'intéresse pas. Ensuite, deuxième point, Jeff Hardy et Elias. Bon, bah, il y en a un peu marre. Hein, c'est de la mid-card. La mid-card, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça a pas mal botché, le finish a été super dangereux, hein, puisqu'il a failli s'exploser la tête sur les escaliers, quoi, parce que là, ils n'avaient pas bien géré, ils n'avaient pas fait gaffe comment ils avaient installé leur matos, là, les mecs, et donc c'était un peu dangereux. Le match, je ne l'ai pas dit, mais il faisait quand même 12 minutes 30, hein, mine de rien. Et en fait, pour terminer, je te rejoindrai sur un truc, c'est qu'effectivement, moi aussi, le segment 24-7 que j'avais pourtant bien noté, moi aussi, m'a bien fait rire, finalement. Et j'ai trouvé sympa l'idée que Hardy et Elias déboîtent les Lucha Party et Drew Gulak au passage. Je trouvais que c'était pas mal foutu, ça, tu vois.
Bah, ça donne un peu de caractère, tu vois. Alors que la rivalité, elle ronronne, ouais. on ronfle.
Oui. On est au bord de la sieste. Hein. Alors, si vous regardez en direct Raw, ça doit être difficile. Hein. Premier match de la soirée, et ça se passe comme ça, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, allez, on va aller backstage, parce que bon, vous savez bien, hein, Raw, ça dure trois plombes, hein, donc Raw, il y a du catch, mais il y a aussi pas mal de backstage. On va y trouver Riddle qui va croiser Kisney en coulisses. Il lui explique que bah, ils s'affrontent ce soir, parce qu'on vous l'a dit la semaine dernière, hein, ce soir il y a un gros triple frit pour devenir le number one contender du bel homme de Drew McIntyre. Et donc en l'occurrence, Riddle, Kisney et Edge Styles vont s'affronter. On va en parler un peu plus tard. Voilà, donc voilà. Le bro là, il nous fait tout un baragouinage, et le lit pour moi prend la bonne option, puisqu'il décide tout simplement de se casser et de pas écouter ce que lui raconte le bro. Derrière, on va avoir une diffusion d'une vidéo de Retribution qui datait d'il y a 3 semaines. Voilà. Ils se demandent pourquoi Ricochet. Alors, parce qu'en ce moment, ils sont en feu avec Ricochet. Alors, attention, les amis, là, je vous préviens tout de suite. Mon papy, je te préviens tout de suite, mais même si tu le sais déjà, on rentre dans la low card, là. Donc, ils se demandent pourquoi Ricochet ne réalise pas ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'il l'a affronté. Voilà, il lui avait proposé une place dans Retribution, mais il préfère rester tout seul, là, le one and only. En conséquence, Ricky, la belle déprime, eh ben, il va affronter Slapjack ce soir, voilà, ex-Shentorn. Il y a une petite vidéo qui est tournée juste après pour nous montrer que Ricochet, il dit que ouais, voilà, qu'il aurait plutôt voulu souhaiter sauver Mustafa Ali de Retribution, mais qu'il a choisi un mauvais chemin. Et donc, bah, pour lui prouver qu'il a tort, et bah, tout simplement, il va le surpasser. On va donc avoir un match Slapjack versus Ricochet. Slapjack, il est bien évidemment accompagné par Retribution. Il va y avoir au départ un lancement de match que j'ai trouvé pas mal. Mais le problème, c'est que ça n'a été qu'un lancement de match, puisque le match va durer 3 minutes 30. Donc vous voyez, en 3 minutes 30, il ne se passe pas grand-chose, même si Ricochet, il a toujours son athléticisme, comme disent les Américains. Mais voilà, ça va être un match complètement phagocyté. Et des distractions de Mustafa Ali, des distractions de Tibar. Sabjak va finalement remporter le match sur un neckbreaker, pas un roll-up, on peut le signaler. Donc défaite de Ricky, donc c'est là, on est vraiment dans Ricky la belle déprime. Et victoire de Sabjak, donc ça fait la deuxième victoire de Retribution depuis leur création début août, ce qui est pas bézef. Hein. Et voilà, et mon papy, qu'est-ce que t'as pensé voilà, de la low card, là, de ce single match?
Ça me fait souffrir rien que de t'écouter décrire ce match, enfin, ce pseudo-match, hein, parce que pareil, avec les interventions dans tous les sens, Dana Brooke qui a foutu une claque à Ali, c'était en ce match-là qu'il y a eu ça.
Oui, j'ai oublié de signaler, effectivement, puisque Dana intervient pendant le match à un moment pour venir un peu semer la discorde avec Mustafa Ali, mais bon, ça marche pas fort.
Ah non, ça marche pas du tout, parce que c'est quelques secondes plus tard que Slapjack gagne, en fait. Donc, dans le genre de truc qui sert vraiment à rien, il y avait ça. Que dire? Effectivement, ils ont rebalancé des tas de morceaux de vidéos, de trucs, de vieux trucs. Je crois que le Ricochet, quand il parle, c'est une vidéo Twitter qui a été faite après un épisode de Main Event. Enfin, le truc, le fond du truc, quoi. Genre, tu vois un truc qui traîne au fond de la poubelle. Ah non, après Retribution, Ricochet, là, on va le foutre à Arrow. C'est pas passionnant, pas passionnant du tout. Après, je pense qu'ils ont peut-être besoin de compléter un peu ce row et du coup, ils ont sorti la low card. Il en faut, mais Retribution, ils ont tellement vendu le truc fort au début pour finalement le balancer en low card que, en fait, si ça avait été de la low card classique, je le pardonnerais là, vu que c'est de la low card quand nous avons vendu du rêve à un moment, j'ai plus de mal à l'accepter, quoi.
Ah, je peux comprendre, et je pense que tu dois pas être le seul à être déçu par ça. Allez, on va quitter la low carb et on va revenir un peu dans du plus sérieux, puisqu'on va attaquer le Miz TV avec le Miz et John Morrison, qui invite ce soir Sheamus. Donc le Celtic Warrior est présent là dans un look un peu tranquille, quoi. Il est assez décontracté, le Sheamus. Mais par contre, pour le coup, il est pas du tout chaud pour faire des amabilités au dirt sheet. Hein. Et il est plutôt là pour que ça se termine vite. Donc évidemment, Miz va le questionner alors sur tout ce qui concerne son amitié avec Drew McIntyre, avec l'histoire de la Claymore, l'épée qu'il lui a offert, le kilt. Voilà. Okay. Mais du coup, Miz, il a décidé de jouer un peu sur la corde de tu vois, Drew, il y arrive, il est champion, machin, mais toi, t'es plus rien, toi, en fait, quoi. Toi, t'es limite un has-been, en fait, hein, le Sheamus, quoi. Tout ce que tu vois là, c'est ton meilleur ami, lui, il grimpe au sommet, puis toi tu stagnes, grosso modo. Je crois même qu'à un moment, enfin, à la fin, il va même lui dire, mais en fait, la carrière de Sheamus, c'est devenu une plaisanterie, quoi. C'est devenu, c'est a joke, voilà, quoi. Donc vraiment, le Miz va charger, pendant tout le Miz TV, va charger grave la mule sur le Sheamus, avec quelques interactions avec le Morrison, etc. Et le Sheamus qui est quand même là, tu vas m'en dire ce que t'en penses, papy, mais pour moi, le Sheamus est quand même complètement dans un face turn en ce moment, quoi. Et le Miz va essayer de lui énerver, quoi, en disant que ça doit pas être simple d'être la roue de secours de son meilleur ami, quoi. Voilà, que lui, il a plus touché le titre depuis 5 ans. Donc là, Sheamus, il commence quand même à devenir un petit peu vénère, quand même, tu vois, le sang lui monte un peu aux pommettes. Et il dit au Miz qu'il va falloir qu'il arrête de run his mouth, quoi. Et qu'il va falloir qu'il utilise ses mains, et il va joindre la parole au geste, et ça c'est ce qu'on aime dans le catch, puisqu'il va cogner le Miz, et il va le faire sortir du ring. Morrison il va intervenir, mais pour réussir à sauver le Miz, quoi, en remontant sur le ring, et de frapper Sheamus avec sa mallette. Alors ça, moi, je dirai un mot là-dessus après, mais voilà. Et du coup, les Miz et Morrison, ils repartent assez satisfaits. Mon bon papy, on a le Sheamus, on a le Drew McIntyre en filigrane, et on a le détenteur de la mallette Money in the Bank. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
C'est effectivement, le Sheamus, c'est, alors on le verra tout au long de la soirée, parce que c'est un peu le fil rouge de la soirée, Sheamus, j'ai trouvé, et sa relation avec Drew McIntyre, où en fait, manifestement, il est en train de faire un face turn, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous raconte. Et t'as l'impression que personne ne le croit, en fait. C'est-à-dire que tout le monde dit « Putain, mais vas-y, pète plus sa gueule, Drew McIntyre. Allez, arrête d'être gentil, toi. T'es méchant, Sheamus. Pète des gueules. Alors, c'est marrant, parce qu'en plus, il dit qu'il n'y a pas eu de titre depuis 5 ans, mais il y a bien eu des titres tag team entre-temps, Sheamus, avec…
Mais il parle du titre de champion du monde. Je pense. Hein.
Donc, effectivement, ça remonte à loin, parce que la dernière fois, je crois que c'est quand il y avait le cachet contre Bryan, peut-être. Monet Hubeck ou contre Reigns, je sais plus. Enfin, bref.
Ah, je sais plus. Fact-checking, pas voilà, de catcher.
Fact-checker. Et donc voilà, donc voilà, il y a toute cette chose qui est jouée autour de Sheamus en disant bah voilà, quel est son nouveau rôle? Est-ce que parce que effectivement, il a été bien heel pendant bah depuis des années maintenant. Et manifestement, il est vraiment très copain avec Drew McIntyre. Donc à voir la suite. Miz et Morrison, bon là, je les trouve un peu moins chiants que d'habitude. J'ai beaucoup de mal avec Miz et Morrison en fait depuis quelques temps. Ils ont tellement été tournés en ridicule que j'arrive plus vraiment à accrocher à eux en fait. C'est comme si demain tu foutais Retribution en main event, j'aurais du mal à y croire. Là, c'est un peu ça avec Miz et Morrison. Ils se font latter par tout le monde, et souvent en 2 contre 1. Et donc là, même s'il a la mallette de Money in the Bank, j'ai du mal à y croire. Alors surtout qu'on peut se mettre Money in the Bank, elle a été maltraitée pendant 6 mois. Ça, j'ai encore un peu de mal à accrocher à eux. Alors, après, le segment était pas mauvais, mais voilà, je m'emballe pas encore avec Miz et Morrison. J'attends de voir vraiment, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose de grand.
Ouais, le segment est pas trop mal en lui-même. Moi non plus, j'ai pas été forcément emballé, mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout la fin. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé en fait que le ton qu'a utilisé le Miz pour déclarer à. Your career is becoming a joke. Et j'ai bien aimé la manière dont il lui a dit quoi. Et j'aime. Voilà, on a un défenseur de la mallette. Voilà. Et donc il a la mallette et il s'en sert pour cogner les gens avec. Tu vois. Voilà pour moi ce que c'est un défenseur. Pour moi, le Miz déjà en deux lundis, il a déjà plus compris que Otis en 6 mois quoi. Donc tu vois. Donc voilà. Il a sa mallette. Il est là. Le Miz, tu vois, il est crédible. Et pour moi, il est dangereux. Voilà, là il se sert de Sheamus un peu pour approcher de près ou de loin, on le verra plus tard, du Drew McIntyre. Mais je trouve que ça, dans l'idée, c'est plutôt bien. Et donc ça m'a plu. Donc j'ai bien aimé que ça se termine de cette manière-là.
Oui, il faudrait plus de segments où le Miz soit un peu dominant quand même. Ça
oui.
Le rend un peu plus dangereux, quoi.
Ah oui, mais ça, rappelle-toi qu'on l'avait déjà signalé, je te l'avais dit aussi, que moi, un des trucs qui me chagrinait avec le Miz, c'est qu'il ne gagnait pas assez de matchs. Et qu'il était présenté trop faible, il faisait que perdre tout le temps, et que moi, au bout d'un moment, je voulais qu'on lui redonne un petit peu de hype, quoi. Et il faut qu'il apparaisse encore plus dangereux qu'il ne l'est, quoi. Mais c'est un vicelard, le Miz. Et j'ai totale confiance dans sa capacité de heal. Voilà, donc je suis pas inquiet avec le Miz. Ça va venir. Et puis on va y revenir au Miz. Vous inquiétez pas, Kachap. On l'a pas encore complètement enterré dans cette soirée. Allez, on retourne backstage, papy. Sarah Schreiber, la présentatrice, elle est avec Nia Jax et Shayna Baszler. Voilà, elle se rejette la faute de leur défaite de la semaine dernière, bien évidemment, puisque c'est un couple dysfonctionnel, n'est-ce pas, Nia et Shayna. Mais bon, elles se sont promis que ce soir, elles ne vont pas perdre face à Lana et Asuka, puisqu'on a un tag team match qui s'enchaîne entre Asuka et Lana, Shayna Baszler et Nia Jax. Du déjà vu, hein, mon papy, il me semble bien. Un match totalement... Oh merde, je sais même pas comment commencer. Parce que le match a duré quand même 9 minutes 20, hein, presque 10 minutes de match, quoi. Ouais, voilà, ouais. Alors je vais essayer de faire le play-by-play sans donner mon avis dans un premier temps. Match compliqué à regarder. Asuka va sauver sa partenaire d'un Kirifuda clutch grâce à un running kick. Elle va assommer Shayna qui va tomber sur une Lania inconsciente et qui va provoquer le tombé victorieux. Sérieux? Voilà, papy, ton avis là-dessus.
Je suis, tu vois, je sens que je vais être un peu plus indulgent que toi. déjà, que je me sens à ton ton. Tu m'as rien dit, mais je le sens à ton ton que je vais. Tonton, toi, tu vois, le ton de tonton me fait penser qu'il va charcuter ce match de manière violente. Donc,
du coup, c'est possible.
Mettre un peu de pommade avant. Que dire? En fait, c'était Ringside, je crois, qui avait évoqué ce sujet-là il y a quelques temps. En fait, ils avancent comme dans leur histoire avec Lana. Bon, on peut avoir les pires craintes, tout ça, mais il y a une certaine continuité là-dedans. On a eu Lana qui se faisait massacrer dans l'étable, on a eu Lana qui fait une victoire surprise, et depuis, on a Lana qui gagne des matchs. Et là, ça fait 2 semaines de suite que cette tag team Asuka Lana gagne contre Shayna Nia Jax. Je pense que tôt ou tard ça va nous mener sur un match à la ceinture. Alors quelle ceinture? Je pense que dans l'immédiat ça sera la ceinture tag team, mais je maintiens mon idée que je serais pas étonné qu'il y ait un four-way un jour autour de la ceinture suprême féminine. Four-way qui pourrait peut-être permettre la victoire de Lana, d'ailleurs. Hein. Si on veut trouver une porte de sortie pour faire perdre Asuka sans trop l'humilier, c'est peut-être la bonne idée. Donc voilà, donc je c'est pas excellent dans le ring, mais n'empêche que je me plaignais de pas voir, de voir Asuka rien foutre. Au moins, il y a une certaine continuité là-dedans. Et puis, bah, tant que Lana n'est pas dans le ring, c'est quand même pas si mal, quoi. Donc voilà, donc je laisse une chance au produit, on va dire. Vas-y, déchaîne l'enfer là.
Accrochez vos ceintures, c'était une bouse absolue. N'allez pas regarder ce match. Ce match, il est inregardable. Il est mais pourri, défoncé de botch par Lana et Nia Jax. C'est une horreur absolue. Mon petit cœur, il saigne pour Asuka, quoi, d'être avec des tanches pareilles dans le ring, quoi. Alors que la qualité de la japonaise est pour moi tellement, elle est tellement au-dessus, quoi. Mais elle plane deux stratosphères au-dessus, quoi. Et assister à une bouse et en plus un one more time de la semaine dernière avec un finish, mais tellement pérave. Mais ah non, là vraiment. Ah non, là, vraiment, vraiment, non, non, mais là, moi, je me suis dit non, non. Alors après, toutes tes hypothèses, mon papy, notre fantasy booking, comme on a l'habitude de le faire à catch-up, de toute façon, hein, des fois qui marche, des fois qui marche pas. Mais oui, effectivement, ce four-way dont tu parles, pourquoi pas, ça pourrait être effectivement une solution qui me plairait plus ou moins. Après, allez, pourquoi pas, mais Nia Jax et Lana, elles sont tellement mauvaises dans le ring, tellement mauvaises. À la rigueur, qu'on laisse se démerder Shayna et Asuka pour le titre suprême, ouais, ok. Et puis qu'on règle l'histoire du titre par équipe. Moi, j'aimerais bien que Haro y ait une nouvelle équipe de filles qui débarque. Tu vois, ça, oui. Ça me plairait bien, quoi.
Voilà, du temps.
Ouais, ouais. Bon, voilà, ils ont décidé de overpusher Lana, ça y est, on le sait. Maintenant, on l'a anticipé, on l'a compris, on l'a encaissé. Ça y est, c'est parti. Lana, elle a une fusée au cul. Bon, ok, on y va avec ça. Mais dans ces cas-là, occupez-nous, donnez-nous un os à ronger sur le titre tag team féminin. Balancez-nous une nouvelle équipe un peu dans cette affaire. Et peut-être qu'on aura des matchs au moins de un peu meilleure qualité. Parce que si tu veux, moi, je veux bien qu'on me donne 10 minutes d'un match comme ça. Mais on me donne un match de 10 minutes de qualité entre les cordes quand même, même si l'histoire, elle n'est pas terrible, tu vois. On me donne pas, dans ces cas-là, on me met un match de 2 minutes, point barre. Bon, surtout pour un finish aussi, mais... Aussi, oh là là, mon Dieu, mais j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible qu'ils nous fassent ça, quoi. Et voilà, donc moi, vraiment, alors là, c'est un 0, je mettrais un 0, un 0,5 à un match comme ça, quoi, tu vois, je mettrais un 0,25 pour Asuka, 0,25 pour Shayna, et puis le reste du monde, quoi. Ah ouais, non, 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 là, vraiment, j'accepte pas un truc pareil, pour moi, c'est même pas professionnel qu'on ait assisté à une bouse pareille, quoi.
Mais en fait, ce qui empêche, en fait, le tour de se réaliser, je pense, c'est que non seulement on a un double facteur, on a non seulement Lana qui est pushée c'est la top face de Raw.
Ah bah oui. Et
en face, c'est Nia Jax qui est poussée top heel de Raw.
Oui, parce que c'est
plus Shayna Baszler qui les prend. C'est elle qui a tous les segments micro quasiment. C'est elle qui est ultra dominante
relation. Mais oui.
Donc c'est la conjonction des deux qui fait que t'as pas forcément du bon catch et qu'en plus t'as pas de solution pour la division tag team, vu que t'as Nia Jax qui est prise avec Lana. Forcément, les deux, ils sont obligés d'être à deux. Donc, tu rajoutes Shayna, vu que t'as Nia Jax, et du coup, vu qu'elles sont deux, tu rajoutes Asuka avec Lana, et puis, pouf, pas ta pouf, les quatre ensemble, et puis, mais voilà, ce sera pas la plus grande rivalité des filles. J'ose espérer que c'est un truc qui laisse passer le temps, et puis qu'au moment du Rumble, ils balanceront toute cette rivalité à la poubelle et puis qu'ils partiront sur du vrai catch pour Asuka. Mais moi, je serais pas étonné que jusque-là, on ait on soit voilà, entre deux os en termes de catch au niveau féminin à côté Raw.
Voilà. Mais je vais arrêter tout de suite de parler de ce truc. on passe au backstage. Backstage, on va retrouver Drew McIntyre qui va croiser le poteau chez Meuse. Il a regardé le Miss TV, bien évidemment, le bel homme. Hein, il n'est pas super content de ce qu'il a pu s'y dire. Mais du coup, il dit au Sheamus, écoute, moi je te propose un truc, hein, c'est tu me rejoins et puis ce soir on va affronter le Dirt Sheet dans le main event, hein, puisque c'est quand même moi le champion du monde, donc c'est quand même moi qui pécho le main event. Bien évidemment, le Sheamus va accepter. Challenge accepted. Tout de suite derrière, on va avoir Kofi Kingston, Xavier Woods, le New Day qui vont être sur le ring. Ils ont une grande annonce à faire. Ils font partie d'une nouvelle équipe d'animation, hein, pour le retour d'une chaîne de gamers, hein, une chaîne qui diffuse du jeu vidéo. Un peu comme le stream, je crois, sur Twitch, si j'ai bien lu. J'essaie de me mettre à la page, mon papy, des trucs de
junk. C'est impressionnant, j'ai rien compris ce que tu as dit.
Ouais, voilà, ouais. Bon, on fera une traduction plus tard, quoi. Et puis, on demandera à la femme du patron de nous traduire. Je sais qu'elle parle le japonais, alors elle va peut-être parler le Jones aussi. Voilà, donc du coup, il remercie les fans, hein, en fait, hein, voilà, de l'avoir plébiscité auprès de la chaîne. Kingston, derrière lui, il va enchaîner un peu sur le hard business. On va parler business, c'est le cas de le dire. Il dit que, bah voilà, hein, ça fait à 3 reprises, ils ont battu les mecs du clan, hein, donc voilà, ils peuvent plus les considérer comme challengers, c'est terminé l'affaire, quoi. Et ça, du coup, bah, MVP, il est pas du tout content, c'est pas du tout son truc, quoi, parce que lui, il fait son entrée avec Shelton Benjamin et Cédric Alexander. Il dit à Kingston qu'ils sont à égalité. Alors, on aimerait bien savoir comment calcule, hein, notre ami MVP, hein, parce qu'ils ont perdu la semaine dernière, ils ont perdu il y a 2 semaines. Donc, bon, voilà. Il y a eu 2 matchs de victoire des New Day, donc il faudra qu'on nous explique. Et donc, le MVP ne nous explique pas ça. Il n'est pas prof de mathématiques, hein, il est manager de catcher. Donc, il déclare qu'ils vont prendre les titres par équipe dès leur prochaine rencontre. En attendant, ce soir, on a un single match entre Cédric Alexander et Xavier Woods. Un match. Bon, 5 minutes 25, hein, on continue, hein, dans des timings ce soir dans Arrow assez difficiles, certainement, surtout après les matchs de 20 minutes de la semaine dernière. Hein. Donc, parce que si vous nous écoutez, si vous êtes des réguliers, vous savez de quoi on parle. Donc, on se retrouve avec un match de 5 minutes 25, voilà, sans rien à dire de particulier, quoi. Un match très très classique entre les deux. Alexander, il va réussir à passer son lumberjack sur Xavier Woods pour remporter le match, qui va gagner clean, il faut quand même le signaler. Il va repartir tranquille vers les coulisses. Je crois même qu'il va oublier ses 2 potes, si j'ai bien fait attention à ce qui se passe à la fin du match.
Ouais.
C'est ça, hein, il part sans MVP et c'est Shelton Benjamin, quoi. Il est tellement il est dans le truc, le mec. Donc voilà, mon papy, single match, Alexander Woods, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oh, rien de particulier, c'est vraiment le match de transition pour t'as une rivalité tag team, bah t'en prends un de chaque équipe, et puis c'est le non-champion qui bat le champion, et puis comme ça va justifier le fait qu'ils vont refaire un match tag team avec ces deux équipes-là, alors qu'il y en a déjà eu deux les deux dernières semaines. C'est de la grosse, grosse méga officielle. Effectivement, dans les promos d'avant-match, c'était festival de mathématiques foireuses entre les New Day qui disaient qu'ils avaient 3 victoires, alors qu'en fait, il y a eu 2 victoires plus un compte extérieur la semaine dernière. Du coup, MVP, non, en fait, vous avez 2 victoires pour vous, mais du coup, bah, nous, le contre extérieur, bah, ça nous fait 2 victoires. Ah, bah oui, d'accord. C'est totalement clair aussi comme explication. Donc, ouais, festival de mathématiques, et puis, ouais, c'est ce que je disais, c'est la grosse ficelle. Ça me manque. Oui, je sais qu'avec les New Day, on aura du bon match tag team, et Benjamin et Alexander sont pas mauvais non plus, donc, bah. La grosse ficelle, je m'en moque un peu. Finalement, ce qui m'intéresse plus, c'est de m'imaginer qu'on aura un nouveau match à TLC et peut-être avec une stipulation en plus qui serait pas mal.
Ouais, c'était super moyenasse. Hein. C'est pas avec ce genre de segment ou de match qu'ils vont nous mettre en PLS à Raw. Hein. Donc là, franchement, voilà, encore après s'être enchaîné le Haskell hein, chez Shayna Baszler, Nia Jax, si vous allez voir les highlights de Raw, vous pouvez très bien ne pas vous attarder sur ce match, quoi.
Ouais, en fait, c'est marrant. En fait, finalement, on s'en prend plus à espérer avec du fantasy booking en disant ouais, mais ça a mené peut-être à ça, donc c'est peut-être bien. Mais tu vois, le segment lui-même, fou là.
Ouais, ouais, tout à fait. Allez, on retourne un peu vite fait en backstage, puisqu'il y a Riddle qui va croiser AJ Styles avec Omos, son associé. Et voilà. Et Styles, en fait, il lui dit à Riddle qu'il veut qu'il soit sérieux, quoi, pendant le match, quoi. Mais le bro, voilà, il répond qu'il a déjà raté sa chance déjà une fois. Mais bon, on voit bien que le vétéran est pas plus impressionné que ça par le bro. Donc tout va bien pour le AJ. Et parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, mon papy, puisque là on va rentrer dans une triple frite, le triple threat match, qui va désigner celui qui va affronter ni plus ni moins que le bel homme, que le champion du monde, que le Drew McIntyre. Allez le voir, le Drew McIntyre, sur Catch Off, il a fait une interview avec Ajus et Shiro. Le mec, il pue le charisme, ça pue, ça schlingue vers l'infini et au-delà. Allez écouter ça, il fait une interview super avec les deux historiques commentateurs français, et c'est bien cool. D'ailleurs, si vous alliez sur le Discord, vous l'auriez trouvé direct. Je dis ça, je dis rien.
Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, on revient à nos moutons. Le number one contender va être désigné dans ce match-là. Edge Styles versus Kisty versus Riddle. Alors là, on va avoir un match de 13 minutes. Ah, on rentre dans des canons un peu supérieurs, on va dire, là tout de suite, hein, parce que là, on arrive vers les main eventer, up mid card. Et là, on va avoir un match dense, intense, où tous les trois mecs vont pouvoir passer à peu près et avoir leur gros moment. Il va y avoir pas mal de Nearfall, en particulier Kisti, qui m'a bien fait sursauter à un moment, quoi. Et sur un pinfall sur Riddle, il me semble. Le AJ Styles est un malin, hein, ce gars-là, mais ce gars-là, il connaît le catch sur le bout des doigts. On peut le critiquer, on peut ne pas aimer, je peux comprendre. Mais franchement, ce gars-là, il connaît c'est un worker de folie, quoi. Et voilà, et il sait alterner. Quand il prend des coups, il sait disparaître. Alors que Kisti et Riddle se sont beaucoup usés l'un contre l'autre au milieu du ring. Et le Styles, voilà. Alors que Riddle, il avait réussi à assommer Kisti, qu'on pensait que ça y est, c'était bon. Le Styles, il va surgir des cordes pour placer son phénoménal forearm sur leur bro. Et il va remporter le match. Clean, victoire de Edge Styles. Edge Styles est donc le number one contender face à Drew McIntyre. Papy!
Oui, donc choix logique.
On l'avait prédit la semaine dernière.
Désolé pour les gens qui du coup n'ont pas été surpris, mais bon, on a souvent raison. Hein, c'est un peu notre malheur, c'est de tout voir.
C'est notre croix.
Voilà, c'est notre croix que nous portons et que nous porterons toujours. Je rebondis sur ce que tu dis. En fait, effectivement, Edge Styles, on voit vraiment qu'il c'est le gars expérimenté parmi les trois. Alors, c'est pas non plus deux genoux, hein, les deux autres.
Non.
Mais par contre, c'est deux gars qui n'ont pas forcément l'habitude du très haut niveau en termes d'exposition. Tu vois, c'est récemment arrivé dans le main roster. Et du coup, j'ai senti que de temps en temps, ils étaient un petit peu perdus sur le ring. Et tandis que Gestal, il colmate les brèches, tac, 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 et il court partout, il fait ci, il fait ça. T'entends, il disparaît quand c'est le moment de disparaître, il réapparaît. Puis, autant, voilà, il a apporté de la fluidité au match, tandis que, notamment sur la fin du match, j'ai l'impression qu'il se dit un petit peu perdu dans le ring. Enfin, je sais pas, c'était peut-être l'impression que j'avais. Mais voilà, pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'est le meilleur choix qu'on pouvait faire, parce que c'est le meilleur catcheur des trois, Gestal. Et puis c'est le plus haut placé pour mettre en valeur Drew McIntyre. En plus, il a son homme de main à ses côtés qui va d'autant plus prouver qu'il est un danger pour Drew McIntyre. Peut-être qu'un jour les deux autres le seront, mais c'était franchement pas le temps de les mettre là, je trouve. Parce que Drew, quelque part, c'est un champion, mais un jeune champion. Ça fait peu de temps finalement qu'il est dans le main event. Et donc, c'est bien lui envoyer en face des mecs confirmés. Tu vois. Comme ça a dit, c'est un jeune champion, mais en face, on lui envoie les tauliers chez tauliers, il les étale tous les uns après les autres. Et je trouve que ça donne plus de valeur à son titre de champion d'étaler des valeurs sûres, en fait.
Personne ne peut remettre en cause, en fait, un affrontement Edge Styles-Drew pour la bonne et simple raison que là, on a deux palmarès, on a deux mecs énormes, on a deux mecs dans la vibe, on a un mec qui est stratosphérique cette année, c'est Drew McIntyre. On a un Edge Styles qui est une valeur sûre, qui va complètement épouser cette rivalité. Et je pense que tu vois, on va avoir deux semaines super sympas entre les deux jusqu'au point d'orgue à TLC. Donc ça me paraît super bien joué. J'ai rien à redire sur ce booking. De toute façon, on était d'accord tous les deux la semaine dernière déjà là-dessus. Donc on ne fait que vous confirmer, peuple de catch-up. Voilà, la tag team partner des anciens, elle est d'accord sur Edge Styles.
Voilà, c'était à la fois un prono et à la fois un souhait, et donc nous sommes doublement ravis.
Voilà, exactement, une très bonne nouvelle dans ce Monday Night Raw. Allez, une moins bonne nouvelle, c'est qu'on va retourner dans la low card des filles, puisqu'on va avoir un match entre Dana Brooke et Rico Ning, ex-Mia Yim, qui fait donc partie de Retribution, qui est accompagné de Mustafa Ali. Un match, un papy, on va aller très très vite. Hein. Il a duré 2 minutes 15. Il y aura une intervention de Mustafa Ali, mais Dana Brooke, elle va surprendre Rico Ning avec un...
Roll up!
That's true, baby! Bon, voilà, hein. on verra que... Et on verra, il y aura un petit fait marquant quand même dans ce match, un seul truc. C'est que à la toute fin, le masque de l'adversaire, en fait, Dana Brooke, elle a cassé le masque de l'adversaire, elle a déchiré.
J'ai posé la question.
Et du coup, ça a révélé la véritable identité de Rico Ning, en l'occurrence Mia Yim. Alors, par contre, Mustafa Ali n'était pas content. Hein. Lui, il est monté sur un ring et il a engueulé Rico Ning en montant sur le ring. Quoi. Pas très sympa avec sa collègue. Papy, la lot carte féminine. Allez, vas-y.
Non, mais rien à dire. J'allais te poser la question de savoir si elle avait débuté le match sans masque ou si elle l'avait perdu en cours de match, parce qu'en fait, j'ai tourné la tête à un moment Et d'un coup, je vois qu'elle a plus de masque. Je fais, bah merde, alors est-ce qu'elle l'avait pas depuis le début ou est-ce que je me souvenais plus? Et comme j'avais la flemme de faire retour arrière, je me suis dit, je vais demander à tonton, comme ça, ça sera plus simple. Donc elle a perdu pendant le match, d'accord. Bah, elle a perdu le masque, elle a perdu le match contre Dana Brooke. C'est la totale. Bienvenue pour ton premier match à Rome et à Im. C'est une belle réussite.
Formidable. Formidable. Allez, on va retourner en backstage. C'est dur hein, d'enchaîner après les low cards, je vous assure, les amis, peuple de catch-up. Venez faire un tour dans notre studio, un de ces quatre, et vous comprendrez. Allez, on enchaîne avec le Miz et Morrison qui vont croiser Jay Styles et Omos dans les coulisses. Ils vont féliciter Styles pour sa victoire. Donc voilà, fair play, le dirt cheat. Et voilà. Et Styles, en fait, il lui déclare qu'il serait ravi d'aider le Miz à encaisser sa mallette. Parce qu'après, pour lui, ça serait plus facile de battre le Miz que Drew McIntyre. Donc là, tu vois, papy, on est exactement dans ce qu'on vient d'expliquer. Voilà, AJ Styles, c'est AJ Styles. Voilà, donc le mec, déjà, direct, il a un plan. Voilà. Et ça, voilà.
Et le Miz, c'est le Miz. C'est-à-dire que tout le monde... voilà, il était tellement mauvais qu'on souhaite qu'il soit champion, quoi.
Et ouais, c'est, on en est là. Voilà, du coup, on va avoir Riddle qui va être rejoint par MVP, toujours en backstage, hein. Qui va lui demander comment il a pu perdre, quoi. Et Riddle, du coup, il a plus ou moins de s'en foutre, comme d'habitude, en fait, et il propose à carrément MVP de faire équipe, quoi. Mais ça, au moment où il va dire ça, bah, il va se passer un truc notable, c'est qu'il y a Bobby Lashley qui va arriver par derrière, qui va porter une full Nelson au bro, et qui va laisser Jésus, les bras en croix, sur le sol. Alors, mon papy, j'ai envie de te dire, mais c'est pas possible, hein, il faut qu'on arrête tous les deux, quoi. Hein, parce que la semaine dernière, on a dit, pour le titre US, ce serait pas mal que si Riddle, il perd le titre, ou Kisly perd le titre, qu'ils aillent vers le titre US. Et que se passe-t-il? Eh ben, Bobby Lashley, il attaque Riddle, mon papy!
Et oui, effectivement, bah, Riddle qui s'était foutu de la gueule un peu des Hurt Business la semaine dernière, et puis du coup, bah, qui prend sa raclée cette semaine. Je reste dans mon point de vue, je pense que ça sera toujours Kisly qui au final prendra le relais de Riddle parce qu'il avait vraiment fait de grosse opposition contre Lashley. Voilà, je vais y arriver. Mais attendons de voir, effectivement. Bon, c'est bien parce qu'en fait, le Hurt Business est un peu ce qui se fait de mieux au-delà du main event. Donc c'est bien pour eux qu'ils puissent rester à ce niveau-là, quoi.
Ouais, on est en plein dans la mid-card, voilà, le titre US, voilà, il faut trouver une rivalité à Lashley parce qu'il y en a besoin, moi je considère. Il faut qu'il y ait de la concurrence pour ce titre, donc c'est parfait, voilà, ça y est, c'est lancé. De l'autre côté, d'ailleurs, il va y avoir Kisly, puisqu'on parlait de Riddle Kisly. Kisly, lui, il va croiser Sheamus et il va un petit peu titiller Sheamus sur les petits problèmes qu'il a, quoi. Donc Sheamus, il lui demande de se mêler ses affaires. Gros jeu de regard, grosse tentative d'intimidation. Donc là, de mon papy, de ce côté-là, on part du côté Kisly versus Sheamus.
Mais alors, je ne sais pas, parce que Sheamus, il a un programme ultra chargé pour la soirée, donc on le reverra encore après. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, est-ce qu'il est face, est-ce qu'il est heel, est-ce que Kisly est heel, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais plus, j'attends de voir la suite.
Je suis perdu, je suis foutu.
Voilà.
Et que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite, puisque nous allons nous concentrer tout simplement vers Charlie Caruso. Magnifique, souvenez-vous. Ah, Charlie Caruso, elle accueille qui? Elle accueille le bel homme pour une interview, bien évidemment. Voilà, donc elle va lui demander un peu qu'est-ce qu'il a pensé, voilà, de sa défaite des Survivor Series. Ça m'intéressait beaucoup d'ailleurs, ça. Et finalement, bah, il nous dit qu'il se sent plutôt bien. Il est toujours le WWE Champion, de toute façon. Hein, et même s'il n'a pas réussi à battre Roman Reigns, il est content d'avoir pu montrer que le Roman, il l'a quand même un peu sous-estimé, qu'il lui a donné un beau combat, et il a bien raison. Il promet quand même, t'auras remarqué, hein, il promet au chef tribal qu'ils vont se rencontrer à nouveau, hein, que c'est pas terminé
c'est
cette
pas
affaire.
Fini.
Hein. Parce qu'il lui dit bien, à la De Gaulle, s'il a gagné une bataille, c'est lui qui va gagner la guerre. J'ai bien aimé ça, mon papy, ça. J'ai bien aimé ça.
Nous l'avons compris.
C'est entendu. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Même si on est vieux, là, on l'a pas raté ce coup-là.
La paille était bien réglée.
Exactement. Nous avons un matériel auditif farpais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Parce qu'il n'aura pas terminé là-dessus, je crois d'ailleurs. Non, ah oui, il va nous dire aussi qu'il va se concentrer sur AJ Styles maintenant qu'il va affronter à TLC. Voilà, il sait qui est son number one contender dorénavant. Charlie, elle va quand même lui expliquer, elle est bien cette Charlie, elle est belle, c'est formidable. Elle lui explique qu'il y a quand même le Miz et sa mallette, qu'il faut qu'il fasse gaffe, quoi. Mais le McIntyre, bah, comme on vous l'a dit, hein, il pue charisme à des kilomètres et le mec, il est confiant comme jamais. Voilà, il dit que le Miz, il s'intéresse qu'à lui, de toute façon. Il n'y a que la mallette qui le rend important. Et donc, il n'est pas prêt d'encaisser de sitôt, quoi. Je veux dire, voilà, le champion, il les a posés sur la table, hein, excusez-moi de l'expression. Donc, le Miz, tiens-toi prêt, quoi. Derrière, main event. Tag team match. Drew McIntyre et Sheamus versus le Dirt Sheet. Alors, bon. Un main event qui dure 9 minutes 55. Est-ce que déjà, je vous donne des indications, peuple de catch-up ? Voilà, main event du vaisseau amiral qui se termine sur un match de 10 minutes. Voilà. Alors, au commentaire, il y aura Samoa Joe, voilà, avec la triplette habituelle, on aura en plus AJ Styles qui va faire les commentaires. Et ça va être quasiment le truc pendant les 10 minutes les plus sympas. Le match en lui-même est plutôt rythmé et tout ça, mais c'est vraiment court. Il y a quelques petits passages un petit peu foirés aussi, quoi, d'ailleurs. Et voilà, AJ Styles, il va profiter que Sheamus, il a été écarté pour attaquer Drew McIntyre. Et ça va causer la disqualification du Dirt Sheet. Donc, victoire des Face par DQ. John Morrison et le Miz, ils vont effectuer quand même derrière attaque et ils vont mettre chacun leur finish sur l'Écossais. Omos, il va choper la mallette et il va la tendre au Miz pour qu'il puisse l'encaisser. AJ Styles va récupérer... Non, c'est pas ça, excusez-moi, je me suis embrouillé dans mes notes. Non, Omos va prendre la mallette, excusez-moi, il va l'attendre au Miz pour qu'il puisse encaisser, mais le champion, il est debout, Drew, il est debout, et il va claquer au Miz une clé mort. Voilà, c'est ça, le play-by-play. Derrière, ça sent un peu le feu là-dedans. Omos, il y a un espèce d'embrouille à mini, j'aime ce mot en ce moment, je ne sais pas pourquoi, embrouille à mini. Edge Styles va choper la mallette et va aller vers l'arbitre. Faire style, bah voilà, on casse la mallette, quoi. Là-dessus, le Miz, il va se précipiter, il va dire non, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est ma mallette, c'est à moi et tout. Et là, voilà, le Styles, malin comme un singe, en fait, quoi. Il a tenté le coup, on sait jamais, sur un malentendu, ça passe, l'arbitre, il fait pas gaffe, il sonne le cash-in pour le Edge Styles. Mais bon, du coup, ça marchera pas, ça va partir en cahuète. Et derrière, Omos, il va choper Edge Styles sur ses épaules. Alors là, le truc, le mec, il fait 2m85. Donc il va choper AJ Styles sur ses épaules et AJ Styles il est fou de colère, quoi, et il est fou de colère après Drew McIntyre et il arrête pas de l'invectiver et il lui dit tu vois Omos là, et ben, il t'a sauvé la vie Drew McIntyre, il t'a sauvé la vie là parce que tu vois j'allais te masquer, quoi, tout ça en postillonnant, c'était pas très geste barrière tout ça, et en postillonnant, en hurlant, et donc bah, le bel homme lui il est resté droit dans ses bottes sur le ring, tranquillement posé sur la troisième corde. Voilà, il lui a dit ok t'inquiète mec, t'inquiète, t'as de la chance qu'il y a ton bonhomme qui est en train de te retenir là, parce qu'on va bientôt se voir à TLC. Clap de fin, le main event de Monday Night Raw du 30 novembre 2020 s'achève ainsi. Mon papy, c'est 10 minutes, alors ?
Ouais, alors comme toi, j'étais surpris quand j'ai vu le chrono, parce que j'ai vu qu'il restait 10 minutes dans le show sur mon enregistrement, puis je me dis putain, il démarre seulement le match, ça risque d'être bien court. Le match en lui-même, alors... D'une part, un match avec Miz et Morrison en main event, je ne suis pas emballé parce que c'est Miz et Morrison qui sont en dessous de tout. Sauf que, bah, ils ont plutôt bien vendu le match en fait, en rajoutant Sheamus, en rajoutant AJ Styles. Toutes les histoires qui ont eu lieu pendant le show, ça a permis quand même de bien hyper le match, bien hyper les bonhommes qui étaient là, toute l'histoire autour de l'encaissement de la mallette. Alors moi, je n'ai pas du tout compris comme toi l'encaissement de la mallette. Pour moi, AJ Styles, c'est en train de forcer la main au Miz pour qu'il encaisse. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de dire « Vas-y, attaque-le !» au début, parce qu'il commence déjà par mettre un coup à Drew McIntyre. Ensuite, il encourage Morrison à mettre son finish sur McIntyre. Ensuite, il encourage le Miz à mettre le finish sur Drew McIntyre. À ce moment-là, il ramène la manette en disant « Tiens, vas-y, maintenant encaisse !» Et puis, t'as le Miz, il fait « Non, mais c'est moi qui décide quand est-ce que j'encaisse !» Enfin, bref, moi je l'ai compris comme ça en fait. C'est en gros AJ Styles qui forçait la main au Miz pour qu'il encaisse parce qu'il voulait absolument affronter le Miz et pas affronter Drew McIntyre au pay-per-view. Et le Miz qui était pas chaud, puis au bout d'un moment il se rend compte quand même que Drew McIntyre est par terre. Sauf qu'il il a mis tellement de temps à s'en rendre compte que entre temps il se prend une clé mort et du coup il rate son cash-in. Enfin, il le rate.
Je pense que t'as raison parce que j'avais c'est surtout sur la réaction, en fait le truc qui m'a trompé au départ, c'est la réaction du Miz. C'est quand il est venu arracher la mallette sur le coup, moi j'ai eu un espèce de moment de doute, je me suis dit mais en fait le AJ Styles il est pas en train d'essayer de le blouser là, et puis je me suis dit le AJ Styles il en est pas à ça près, il a déjà fait des trucs de filouterie un peu plus cradingue que ça, donc sur le coup ça m'a un peu mais maintenant en t'écoutant, oui effectivement ça me paraît plus crédible comme ça, quoi.
Ouais, effectivement, il aurait pu essayer de l'encaisser pour lui, mais vraiment sur le body language de DJ Styles, j'avais vraiment l'impression qu'il forçait la main au Miz, en fait. Et il tirait le bras du Miz en disant, vas-y, encaisse, vas-y! Et puis voilà, quoi. Mais bon, voilà. Et puis au final, voilà. Donc tout ça pour dire que bah, ce match-là qui m'emballait pas sur le papier, bah, au final, l'histoire racontée a fait que. Bah, alors, le contenu du match est totalement annexe, hein, mais a fait que ça m'a. Je me suis intéressé quand même. Une petite déception quand même pour Sheamus qui est très vite éliminé, j'ai trouvé, et puis qui n'apparaît pas du tout dans le segment final. Alors, est-ce qu'ils vont se servir d'ailleurs pour rebondir en disant, bah, tu vois, t'as pas aidé Drew McIntyre, t'es pas un vrai ami, tout ça, comme ils essaient de le faire depuis quelques épisodes. J'attends de voir ça.
Ouais, on verra. Bah écoute, ouais, de toute façon, globalement, c'est vrai que c'était pas mal toutes ces interventions. Il y avait pas mal, c'était un match finalement blindé d'overbooking, mais c'était plutôt de bon aloi. Ça lançait bien, de toute façon, la rivalité chez Drew et AJ Styles. Donc c'était plutôt fun. Donc écoute, ouais, allons-y, allons-y. Après, AJ Styles, je me demande. Comment il va jouer son affaire là, tu vois, sur les 2 prochains lundis qu'il va y avoir. Quelle va être sa stratégie? On peut se demander là, tu vois, quoi, sur les 2 prochains lundis avant TLC. Qu'est-ce qui
Et
pourrait
puis,
lui permettre d'affaiblir le plus possible Drew d'ici TLC?
bah, le choix de la stipulation, je pense déjà ça pourrait jouer. Est-ce qu'il va pas influer là-dessus? Est-ce qu'il y a des stipulations qui seraient plus ou moins avantageuses pour lui, sachant qu'il a un associé avec lui, quoi. À voir s'il va pas essayer de jouer là-dessus et construire, choisir la stipulation qui l'arrange le plus. Alors, est-ce que ça sera carrément le TLC match? Je suis
Ah
pas
bah
sûr
pour
qu'ils en fassent un.
moi,
Ouais,
ah
mais il
ouais.
y en aura peut-être un pour Reigns aussi, en fait. Et la question, c'est est-ce qu'il sera pour Reigns ou est-ce qu'il sera pour McIntyre le TLC match? Donc, je ne sais pas.
Ah ouais, pour Reigns, le TLC match, ouais, je sais pas, là, je doute en fait, là, tu vois. Ah, et évidemment, ouais, pour les 2 titres mondiaux, il va peut-être pas y avoir 2 TLC matchs, effectivement.
Bah, ça me semblerait gros que pour les deux mecs, en plus.
Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Ah, j'ai un vieux doute. Ouais, j'ai un vieux doute là sur
Après,
ce
est-ce qu'ils vont
principe-là.
pas jouer le table match pour Reigns, Kevin Owens, vu que c'est le head of the table, Reigns? Ça serait l'occasion de jouer un peu là, sur ça.
Effectivement, ça serait bien. Ah, j'aime beaucoup son t-shirt à Roman Reigns. Hein. On est à Raw aujourd'hui, mais j'étais pas sur votre review de SmackDown. Mais j'aime beaucoup le t-shirt Head of the Table. Et j'ai adoré le segment final de SmackDown la semaine dernière.
Et bah, voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Quand tu laisses le champ à Kevin Owens, et bah, tu te fais plaisir. Mais bon, voilà.
Eh
Donc,
ouais.
ouais, ouais, moi, je pense en fait que ça va se jouer tout autour de la stipulation. Et mine de rien, si c'est une stipulation où tu dois chercher le titre sur une échelle, et bah, tu peux très bien trouver des solutions pour faire penser une défaite de Drew McIntyre, mine de rien.
Ah ouais, tu peux l'envisager, c'est possible, ouais, c'est possible, c'est possible. Bah, et de toute façon, on a encore pour quelques lundis à vous commenter ça pour DC TLC. Mais là, ce qui nous concerne dans ce Monday Night Raw, c'est ton top, c'est ton flop, et c'est ta note, mon bon papy, et c'est maintenant.
Ouais, ben alors mon top, je vais le donner. C'est bien parce que j'ai pu le définir au fur et à mesure de nos échanges. Donc mon top, ça sera la construction pour la rivalité pour le titre mondial, et comme tu l'as bien dit, ça a été légèrement overbooké parce qu'il y en a eu deux partout, mais au moins ça donne du contenu et de la consistance à cette rivalité. Avec Sheamus, avec AJ Styles qui construit sa victoire, et puis qui est encore leur main event, et le Miz et Morrison qui sont avec la manette autour, et puis voilà, ça, là c'est du gros booking autour de Drew McIntyre, et je trouve ça plutôt bien, moi, de voir toutes ces dynamiques qui se fait. C'était bien bien dense, mais on en avait besoin suite bah, à la fin de la rivalité avec Orton, et puis la mini rivalité avec Reigns. Fallait relancer Drew McIntyre sur un gros truc, et je pense que c'est le bon choix et que ça a été bien fait. Donc voilà mon top, la construction de la rivalité pour le titre suprême. Mon flop, c'est assez compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui n'étaient pas terribles hein, dans ce Raw. Je vais le donner globalement à la division féminine. Comme je disais, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme tu le disais, c'est pas bon. Donc qu'ils aillent au bout de leurs idées et qui j'espère qu'ils vont essayer de nous surprendre un peu plus que là avec quelques idées, quelques choix un peu plus audacieux. Mais en tout état de cause, la division féminine d'Euro est très faible en ce moment, avec bah, une championne qui n'est pas montrée forte, malheureusement, en plus, vu qu'elle est éclipsée par Lana. Donc voilà, donc la division féminine, elle a besoin de se construire un peu, et c'est pas Mia Yim contre Dana Brooke qui va nous aider à avoir des espoirs, en fait. Donc voilà, mon flop à la division féminine. Et ma note, bah, je vais mettre une note légèrement sous la moyenne, du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui n'étaient pas terribles, et en plus, le mené était court. Donc je vais mettre un 2,25. Après voilà, la construction, l'histoire du main event me plaît beaucoup, donc elle sauve un peu le reste de l'émission.
Ok. Eh bien moi, écoute, je vais mettre une mention spéciale au costard du Miz dans le Miz TV, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Mon flop, je vais le donner sans surprise de toute façon au tag team match féminin. Je m'en excuse d'avance auprès d'Asuka, hein, vraiment, mais vraiment pour moi c'est vraiment une catastrophe totale, donc ça ne pouvait être qu'inévitablement mon flop. Et mon top, eh ben, écoute, on va verser dans l'autosatisfaction catch-up-esque de la tag team des anciens, parce que comme toi, voilà quoi, le main event avec tout ce qui se passe autour du titre de champion du monde, avec tout ce qu'on avait expliqué la semaine dernière et qui se vérifie aujourd'hui, et eh ben voilà. On est parti là sur les rails d'un AJ Styles versus Drew. J'en suis complètement satisfait. Ça me paraît complètement pas déconnant. Et c'est vraiment, voilà, vraiment une bonne surprise dans ce Monday Night Raw qui, au-delà de ça, moi j'ai trouvé a été très mauvais en fait. Beaucoup de low card, beaucoup de segments backstage, des matchs de catch. Le match le plus long a duré 13 minutes. La semaine dernière, on avait mis, je crois, un 2,75, moi, et je crois que tu avais mis un 2,5 ou un 3, je ne me souviens plus.
Je sais même plus.
Je crois que tu avais mis un 3 et moi un 2,75.
C'est possible.
Oui, c'est ça. Ah, et du coup, tu vois, bah là, moi, franchement, à part l'opener avec Alexa Bliss, parce que j'ai plutôt été client de ce qu'ils ont fait avec Randy Orton. Le Symphony of Destruction, après la low card avec Ricky, la belle déprime, tout ça. Non, le single match Alexander Woods, tout ça. Voilà, il y a eu le triple threat match dans ce Raw et il y a eu le main event. Voilà. Et c'est vachement léger, hein. Parce que le main event.
Sur 3 heures.
Le main event dure 3 minutes, dure 10 minutes et le triple threat dure que 13 minutes, quoi. C'est pas non plus fou, quoi. Tu vois. Alors que la semaine dernière, on nous balance un match à 20-22 minutes, quoi. Donc je dis non, là, pourquoi le triple threat finalement a eu un traitement aussi faible? Là, j'ai du mal à me l'expliquer, quoi.
C'est le cas partout, hein.
Ouais, et en plus, alors que ça a été annoncé avec pertes et fracas la semaine dernière par-dessus le marché, puisque ce match a été présenté comme la 8e merveille du monde, quoi, tu vois. Donc au final, bah, ça a fait pchit, comme disait l'autre. Et moi, je vais mettre qu'un 2 à ce Raw.
D'accord.
Voilà.
Ah, on garde notre écart de 0,25.
Qu'est-ce que je déteste faire des reviews où je donne des mauvaises notes, quoi. J'aime tant la positive attitude. Ah là 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 là. The power of positivity.
La power of love.
Ouais, oui, tout à fait. Voilà. Et ben là, on n'y était pas beaucoup pour cette semaine, malheureusement, pas mal de catch-up. Alors bon, j'espère que vous serez plus amusés à nous écouter qu'à voir ce Raw. Donc si on peut vous donner des conseils pour les highlights, c'est aller voir le triple threat et aller voir le main event. Et puis ça se passera bien comme ça, quoi. Voilà. Allez, on est arrivé à la fin de ce Monday Night Raw, de cette review du 30 novembre 2020. On vous envoie voilà, partout pour nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube, sonnez la cloche. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on vous répondra sur le site officiel catchup.lepodcast.fr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Vous nous retrouvez bien évidemment toute la communauté catch-up sur Discord, voilà, pour venir discuter. Vous y trouvez des onglets qui traitent d'un peu tout. Attention, il y a un onglet spoiler, donc à faire très attention dans cet onglet-là. Vous avez des modérateurs.
Non, c'est des choses, hein.
Les modérateurs, c'est toute l'équipe de la team catch-up. Et voilà, c'est un Discord qui est bien actif, qui est bien sympa. On fait des bisous d'ailleurs à tous ceux-là, aux grands actifs. Là, je pense à des pros Wardlow, à tous nos tous, à les Zygotes et compagnie, quoi. Enfin, vous reconnaîtrez tous, peuple de catch-up. Et voilà, mon bon papy, mon bon ancien. Bah écoute, on va pouvoir retourner sereinement à la maison de retraite ce soir. Hein.
Oui, voilà, une affaire rondement menée. Je te remercie de m'avoir invité dans ta chambre. Et puis, voilà, c'était fort plaisant, malgré le niveau d'euro un peu défaillant.
Ouais, ça fait plaisir. On avait une bonne connexion avec les deux Minitel, là, c'était top.
Alors, c'est branché directement sur 3615, on va pas le dire. Mais c'était bien.
C'était, oui, là. C'était impeccable. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, qu'on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut, papy.
Salut, tonton. Salut à tous.
Salut, papy. Oh, il a une voix différente, celui-là.
Ouais, il est now recording.
Now, il est enthousiaste.